le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir, bienvenue à la mission Grain de sable d'Attaque. Ce soir, on reçoit RESF. Donc, on a Martin Galmiche, Catherine Tourier.
Bonsoir.
Bonsoir. Et une famille donc, que vous allez nous présenter. Donc, pour commencer, si on peut rappeler un petit peu l'historique d'RESF, qui existe déjà depuis quelques années, et puis peut-être les objectifs à la création, les différents collectifs peut-être qui étaient à l'origine. Voilà, si vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique pour des gens qui ne seraient pas forcément au fait de tout ça.
Oui, alors RESF va bientôt fêter ses 10 ans, je dirais malheureusement, puisque nous, à la création de RESF, on ne pensait pas être obligé d'être encore là 10 ans après. RESF s'est créé essentiellement dans la région parisienne et essentiellement d'abord autour des jeunes majeurs scolarisés, c'est-à-dire des lycéens qui ont plus de 18 ans et qui, de ce fait, deviennent sans papier, parce qu'avant 18 ans, on n'est pas sans papier. On est enfant de sans papier, éventuellement, mais on n'est jamais en situation irrégulière. On devient en situation irrégulière à partir du moment où on a 18 ans. Et donc, c'est parti essentiellement dans le milieu enseignant, parce que, ben voilà, il s'est retrouvé un certain nombre d'enseignants qui avaient en face d'eux des jeunes, indiscernables parmi les autres, qui avaient la tête de monsieur et madame tout le monde, de n'importe quel élève, mais qui avaient une particularité. Ils n'avaient pas le bon papier, le titre de séjour. Et assez spontanément, à plusieurs endroits, il y a eu des actions qui ont été faites. Et un certain nombre de gens qui ont gravité autour de ces actions se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, qu'il y avait d'autres collèges, d'autres lycées dans lesquels il y avait les mêmes problèmes. Et à ce moment-là, en juin 2004, s'est tenue une réunion de fondation de RESF, qui a regroupé dès son origine un certain nombre d'organisations comme la Ligue des droits de l'homme, les syndicats enseignants, la FSU, d'autres, qui lui ont permis d'exister immédiatement, non pas simplement par les petits groupes de militants qui existaient, mais parce que les grandes organisations, des grandes organisations en ont immédiatement été partie prenante. Et en juin 2004, il y a un appel qui a été lancé, l'appel fondateur de RESF, qui disait en gros, eh ben voilà, il y a des gens sans papier dans nos écoles et nous n'allons pas les laisser dans cet état-là. Et nous allons nous mobiliser, faire quelque chose pour qu'ils aient les papiers. Alors ensuite, très rapidement, des petits collectifs RESF se sont créés à droite et à gauche. En décembre 2004, à Lyon, il y a commencé à avoir une mobilisation autour d'un lycée à Lyon, le lycée Récamier, autour de plusieurs jeunes filles qui justement étaient dans cette situation. Et ensuite, RESF a pris un tournant assez différent, parce que du coup, des gens sans papier, ayant des enfants scolarisés en primaire, sont venus nous voir et nous ont demandé de l'aide. Et à Lyon en particulier, début 2005, on s'est mobilisé pour une famille qui n'était pas du tout de Lyon à l'origine, qui était une famille qui était au centre de rétention de Lyon, mais qui venait de Metz. Et c'est à ce moment-là que vraiment on peut dire que c'est un des actes fondateurs du réseau, parce qu'à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était un réseau. Nous, on s'est mis en relation, quand on a appris qu'il y avait cette famille au CRA de Lyon, on s'est mis en relation avec les gens qui étaient autour de cette famille, qui n'était pas encore RESF Metz, mais qui va devenir RESF Metz. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à communiquer, à faire des choses ensemble et à se dire qu'il fallait qu'on ait vraiment une présence nationale partout. Et du coup, RESF est né comme ça, avec ces deux aspects-là, la défense des parents qui ont des enfants scolarisés et qui sont, eux, sans papier, et la défense des jeunes majeurs scolarisés sans papier.
Et là, comme vous parlez de défense, de droit, est-ce qu'également RESF
a été rejoint par des magistrats, des avocats, des gens qui soient plutôt dans, dans les métiers de la justice et de cet accès aux droits et à la défense.
Oui, absolument. Dès son origine, nous avons été, enfin, Logisti est partie prenante de la création de RESF. Le syndicat des avocats de France a toujours été extrêmement lié à RESF. Et nous avons, bon, par exemple, sur Lyon, que je connais le mieux, on a tout, très rapidement reçu le soutien et l'aide de la CIMAD, de l'ensemble des gens qui connaissaient déjà le milieu des sans-papiers. Moi, je ne connaissais absolument pas les sans-papiers, ou très anecdotiquement, avant la création de RESF. Hein, c'était un domaine. Bon. Et ce qui a, je pense, été vraiment notre spécificité, c'est que nous, on s'est pas contenté de défendre les dossiers d'un point de vue juridique, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers, comme on nous disait, qui sont indéfendables. Bon, et moi, je me souviens, la première fois où on est allé à la préfecture, en juin 2005, non, en juin 2006, pour défendre des dossiers comme ça, de gens qui nous avaient rencontrés et qui avaient fait appel à nous, on connaissait rien au droit. Bon, la plupart d'entre nous, la plupart des soutiens ne connaissaient rien au droit, et on disait au préfet, on avait été reçu par le préfet de l'époque, et on lui disait, mais nous, ça nous est égal qu'ils rentrent pas dans les clous de la loi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient régularisés tout de suite, maintenant, et qu'ils soient parce que ils vivent avec nous, ils sont avec nous, ils vivent ici. Il n'y a pas de raison qu'ils aient pas de papiers, il n'y a pas de raison qu'ils galèrent parce que ils sont sans papiers. Et effectivement, on a obtenu des régularisations tout de suite, et du coup, on est devenu un point d'accroche pour les gens. Mais en même temps, très vite, on s'est heurté à l'appareil d'État, et on s'est heurté à des expulsions qu'on a réussi à empêcher avec des trucs déments, quoi. Enfin.
Mais justement, quel mode d'action vous pouvez avoir, parce que face à cet appareil d'État, on peut se retrouver un peu démuni.
Ben, l'appareil d'État, il est sensible à l'opinion publique, plus qu'on ne le croit souvent. Et quand il a l'impression qu'il a en face de lui des gens qui sont, entre guillemets, naïfs, qui sont mais déterminés et qui vont pas lâcher, qui vont continuer à accompagner ces familles, à dire bon, ils sont sans papier, nous on s'en fiche, c'est pas notre problème, on veut qu'ils soient régularisés, et qu'ils ont l'impression que c'est monsieur et madame tout le monde, ben dans un premier temps, ça a énormément surpris les préfectures, pas qu'à Lyon, hein, et ça a surpris justement l'ensemble de l'appareil d'État, qui s'est dit mince, on a en face de nous une opinion publique qui est en train de se retourner et qui prend la défense des sans-papiers. Alors, pas de tous les sans-papiers, mais de notre famille, hein, parce qu'après, les collectifs, ils y allaient. On a eu, entre fin 2005 et 2007, on a eu une explosion de collectifs, c'est-à-dire que les gens, bon, je prends toujours un exemple lyonnais, nous envoyaient un mail et nous disaient, ben, nous, on est dans tel village, dans les monts du Lyonnais, on voudrait créer RESF, est-ce que vous nous donnez la permission? Ben, oui, allez-y, je vous en prie, il n'y a pas de label RESF, allez-y.
C'est parce qu'ils voulaient défendre, justement, c'était des petits collectifs qui voulaient défendre certains cas particuliers ou de familles qu'ils connaissaient, en fait, c'est ça,
oui,
qui était proche d'eux.
Tout à fait. On a joué beaucoup sur la proximité.
Alors justement, comment se passe cette question de proximité qui est importante, et aussi le réseau. Vous avez dit, on s'est rendu compte qu'on était un réseau, donc ça aussi, ça te force. Comment se fait l'articulation? C'est de l'apport de connaissances et aussi un peu du lobbying au niveau national?
Je crois qu'on a tout tenté. Hein. Très rapidement, on a fait des rencontres nationales. Dès 2005, on a fait des rencontres nationales parce que justement on avait besoin de se voir et d'être un réseau, mais un réseau qui communique. On a créé des outils, essentiellement par Internet au départ. On a créé des listes de discussion, des listes d'informations. Et puis effectivement, on a échangé des expériences, et c'est ça qui a fait. Mais c'est, je pense que la force du réseau, ça a été sa spontanéité et le fait que ça correspondait profondément, je crois, à une envie de l'opinion publique de plus de justice, de plus de solidarité. On était à l'époque Sarkozy, ministre de l'Intérieur d'abord et puis président de la République, et il y avait un rejet de cette politique sécuritaire, etc. Et le fait de défendre les sans-papiers, c'était une partie de ce rejet qu'on a réussi à capitaliser. Dans une certaine mesure, à notre grande surprise, hein. Faut pas rêver, nous, on s'est lancé parce que, les uns et les autres, on avait connu ou on connaissait des familles sans papiers, et on s'est lancé comme ça, bon, et on savait pas au départ qu'on rencontrerait cet engouement, parce que je crois qu'on a même pu parler à un moment d'un engouement. Et ensuite, il suffisait, bon, des gens nous téléphonaient ou envoyaient un petit mot sur les adresses mail, et on leur disait, bah, il faut faire ci, il faut faire ça, débrouillez-vous, et ça marchait. C'était géant. Hein.
Martin, si vous avez...
Oui, alors, moi, je parlerai peut-être pas avec autant de précision que Catherine sur l'histoire des RESF, par contre. Je peux peut-être témoigner en tant que personne qui agit un petit peu dans le cas des RSF depuis 2 ans à peu près maintenant. Et en général, comment ça commence, comment on commence à se sentir concerné par le problème des sans-papiers? Eh bien, je pense que c'est en rencontrant des familles, en rencontrant des personnes qui sont dans cette situation.
Donc, t'es enseignant ou parent d'élèves?
Donc moi, je suis parent d'élèves, mais je suis surtout musicien intervenant en école primaire. Donc je navigue d'école en école, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'enfants et leurs familles. Et donc si moi j'ai commencé à me sentir concerné par ce problème, c'est parce que j'ai rencontré une famille. J'ai travaillé dans une école qui s'appelle l'école Giono, dans le 8e arrondissement. Et puis un jour le directeur m'a dit, bah écoute, on va faire un parrainage républicain pour une famille sans papier. Il y a 2 enfants, donc il faut 2 parrains et 2 marraines. Et puis, bon, comme dans l'école, il y a surtout des enseignantes femmes, il nous manque un parrain. Donc, est-ce que tu veux bien être parrain? J'ai dit oui. Et puis, le parrainage a eu lieu, et de fil en aiguille, on va dire que j'ai lié connaissance avec cette famille en difficulté. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à me sentir concerné par le problème. Et à mon avis, on cerne pas complètement le problème des sans-papiers si on est complètement déconnecté de la situation réelle des familles. C'est indiscutable. Et alors, d'ailleurs, ici, on est avec la famille Bensouina, qui est en grande difficulté depuis son arrivée en France en 2012. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il y a Marwa qui est avec nous. Tu veux dire bonjour, Marwa?
Bonjour.
Dis quel âge tu as? Dans quelle école tu vas? Aussi, tu peux le dire, ça.
T'es en quelle classe?
CPCE1.
Hein? CPCE1. En CPCE1.
Ouais.
Tu as quel âge?
8 ans.
Voilà, donc on est aussi avec monsieur et madame Bensouina. Peut-être qu'on peut dire que, alors on en a un petit peu parlé dans quelques journaux récemment, il y a quelques semaines a eu lieu l'occupation de l'école Giono, parce que des parents d'élèves et des enseignants n'ont pas supporté que certains enfants de l'école arrivent en classe avec les yeux cernés, avec rien dans le ventre et ayant dormi souvent dans la rue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est pas évident. On se sent un peu démunis. Et effectivement, encore une fois, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ce qui saute le premier aux yeux et aux oreilles, c'est les problèmes de logement. Surtout quand on arrive dans la période de grand froid.
Donc on n'est pas seulement sur des questions de risque d'expulsion, on est aussi sur les conditions de vie.
Disons que moi je dirais qu'il y a deux aspects, en tout cas dans le cadre des RESF. C'est premièrement le fait qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont on traite le problème des sans-papiers. Et puis deuxièmement, c'est dans l'urgence, il y a des personnes sans-papiers. Et qu'est-ce qu'on fait pour les aider et qu'est-ce qu'on fait pour défendre leurs droits? Voilà, donc c'est, moi je dirais, ces deux aspects de la conviction des RESF, l'aspect plus politique et puis à grande échelle, l'envie de défendre une autre politique pour l'accueil des gens et pour la façon de traiter les sans-papiers. Et puis l'autre aspect, c'est un aspect beaucoup plus local, qui met en jeu vraiment les relations humaines qu'on peut avoir avec ces gens-là et comment aider les personnes qui malheureusement sont sans papier. Donc c'est vraiment deux aspects qui sont nécessaires et qu'il faut mener en parallèle.
Je pourrais rajouter que la situation des sans-papiers s'est dégradée au fil du temps. D'une part parce que les lois sont devenues de plus en plus restrictives et l'arrivée d'un nouveau gouvernement n'y a rien changé. Et d'autre part parce que quand RESF a été créé, il y avait des familles sans-papiers qui craignaient l'expulsion, mais qui étaient souvent en France depuis plusieurs années et qui venaient souvent... on va dire d'endroits francophones ou qui a été là suffisamment longtemps avec des enfants scolarisés pour avoir appris le français et s'être de fait inséré. C'est-à-dire que à cette époque-là, il était encore possible de travailler souvent au noir, mais donc d'avoir des revenus. Aujourd'hui, alors c'est en partie la crise, bon, mais c'est surtout le côté répressif qu'a pris nos sociétés, qui fait que les gens ne trouvent plus de travail. Et donc, comme ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de moyens de se loger. Bon, il faut rappeler que les sans-papiers, c'est des gens auxquels on interdit un certain nombre de choses, du fait qu'ils soient sans-papiers. Mais c'est aussi la même chose pour les gens, par exemple, qui demandent l'asile. Autrefois, il y a 20 ans de ça, les gens qui demandaient l'asile en France avaient automatiquement le droit au travail. Donc, ils travaillaient, ils s'inséraient, et voilà, ils se débrouillaient, ils rentraient comme ça, comme l'ont fait les migrants depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile de travailler parce que les sanctions sont lourdes, à la fois sur le sans-papier qui travaille et à la fois sur la personne qui l'emploie. Donc du coup, les possibilités d'emploi se sont énormément restreintes. Donc du coup, les gens sont sans travail, sans revenus et donc sans logement. Donc, on a, nous, en face de ça, beaucoup de difficultés parce qu'on n'est pas du tout des spécialistes du logement et c'est pas simple.
Donc, ça change votre type de lutte aussi.
Je pense que c'est en train de changer notre type de lutte, oui, absolument.
Et par contre, l'engouement dont vous parliez, il est toujours là
La solidarité, elle est toujours là. Moi, je dirais que dans une certaine mesure, le problème du logement interfère, pas forcément pour le bien, des sans-papiers avec la problématique justement des papiers. Et puis d'autre part, la situation a changé aussi, en ce sens que malgré tout, bon, j'allais dire grâce à l'action de RESF, mais pas que, un certain nombre de familles ont été régularisées. Les familles qui étaient là depuis longtemps sont, dans une grande mesure, les familles avec lesquelles on a commencé RESF, sur Lyon, mais un peu partout en France, sont régularisées. Donc ces gens-là qui étaient bien insérés, aujourd'hui sont des gens normaux, qui vivent leur vie. Et les nouvelles personnes qu'on rencontre sont des gens qui, comme cette famille, sont des gens qui sont déboutés de l'asile, qui ont eu une réponse négative de l'OFPRA dans un temps souvent pas extrêmement long, moins d'une année. Bon, aujourd'hui, les délais se sont allongés un peu plus d'une année, et donc qui n'ont pas fait vraiment leur trou, si je puis me permettre cette expression-là, dans la société, et qui donc cumulent les handicaps. Ils ne parlent pas beaucoup le français, ils n'ont pas le droit de travailler, et ils ne peuvent pas trouver de travail, donc ils n'ont pas de logement. Donc effectivement, quand ils arrivent, quand ils se révèlent dans une école, c'est la cata, c'est la catastrophe absolue, parce que, bon, là, on pense à la première chose, sortir les gens de la situation la pire, c'est-à-dire le logement, et du coup, il faut ensuite repartir sur la problématique sans papier, etc. Donc c'est pas simple. Et en même temps, on a un phénomène relativement pervers, c'est que le gouvernement actuel, qui ne veut pas se faire taxer de sarkozyste, ne régularise pas, mais en même temps, ne régularise pas et ne trouve aucune solution pour les familles qui sont sans papier. Mais en même temps, emblématiquement, aujourd'hui, il y a pas de famille en centre de rétention, quasiment pas. Je crois qu'on en a compté 4 sur l'ensemble de l'année 2012 et probablement encore moins sur l'année 2013. Et d'autre part, ils osent plus expulser. Merci à Leonarda qui, elle, s'est fait expulser. Mais ça a fait un tel foin autour de ça. Les médias se sont mobilisés qu'aujourd'hui, l'État n'expulse pas. Donc du coup, la problématique du papier passe à l'arrière-plan. Mais en même temps, c'est extrêmement nocif pour les familles, parce qu'elles restent dans une situation de ni expulsée, ni régularisée, mais de plus en plus difficile, compte tenu de tout ce qu'on a dit avant.
Ce qui veut dire que c'est que les régularisations qui ont pu avoir lieu avant, ça a toujours été un peu des cas individuels, jamais ça a permis de changer la loi ou de se reposer la question de la loi, de certains critères.
ça n'a jamais permis, ça a permis qu'un certain nombre de gens se rendent compte que c'était une histoire de loi, mais les gouvernements successifs ont reculé et n'ont jamais voulu modifier les lois. Et quand le gouvernement Sarkozy a modifié les lois, ça a toujours été dans un sens plus restrictif.
If Penny could tell me, oh, she sees about the way her clover tastes. She says she had a fun today. She sold a vow like she used to. If I
à l'antenne de Radio Canu sur l'émission Le Grain de Sable et nous recevons aujourd'hui RESF, Réseau Éducation Sans Frontières.
Alors, on est ici avec monsieur et madame Bensouina et Marwa, qui a 8 ans, qui est en CP à l'école Giono dans le 8e arrondissement. Madame Bensouina, peut-être vous pouvez un petit peu nous raconter un peu votre histoire, votre arrivée en France en 2012, etc.
Bonjour, je m'appelle madame Bensouina Amara et mon mari c'est Djilali. J'ai arrivé en France le 2012, le 25 juin. Bon, j'ai rentré à Lyon, j'ai parti à la préfecture, j'ai fait une demande d'asile. J'ai resté dans un jardin à côté de la Hennec, presque 20 jours. Comme ça, après, elle m'a envoyé de Forum-Ferrigis à l'hôtel de la Croix-Rousse, l'hôtel de la Poste. J'ai resté presque 6 mois là-bas. Après, elle m'a envoyé à la foyer de Général Frère, à Pôle Santé, Marmousse. J'ai resté 6 mois. Ça fait de 6 mai, j'ai tout négatif, de l'OFRA et tout, de la CNDA. Elles m'ont fait sortir de 6 mai, j'étais dehors dans la rue. Je dors dans le parc, après dans les jardins, dans les voitures, dans le camion. J'étais dans un camion avec ma petite fille et mon mari. Nous sommes très malades, on est malades. Mon mari a opéré le cœur. Moi je suis opérée aussi, la carotide là. On est diabétique, on est très mal. Deux fois ou trois fois de parc, elles m'ont pris le pompier à l'urgence. Rien de... J'ai appelé le 115 toujours, j'ai fait les dossiers de Pôle Famille, de la vieille sociale, de Sex Gambetta aussi. J'ai fait tous les portes, j'ai tapé tous les portes à la CCA, à la Maison de Ronde, mais rien du tout, toujours dans la rue. Ça fait le 15 novembre, c'est le 15 novembre, comment faire rentrer dans le... C'est le directeur qui a fait une... C'est pas comment dire... Des journalistes et tout, ils sont venus là-bas à l'école. Il m'a fait rentrer à l'école, il m'a fait les tentes, j'ai dormi là-bas 5 jours à l'école. Et après, ils m'ont envoyé de 115 plombs froids, c'est à Foch, dans un foyer, jusqu'à le 28 mars. Elle a dit, jusqu'à 28 mars, débrouillez-vous, vous sortez d'ici. Je sais pas, après, quand je vais faire. C'est ça mon histoire, nous sommes très triste, très malade, très fatigué, tu sais.
Et vous venez d'où ?
De l'Algérie.
D'accord.
Oui, nous sommes Algériens. Et nous sommes nés avant le 62, nous sommes fils des Françaises, non ? Pendant la guerre, quand il y a la guerre en France, oui. Mais on a fait un récépissé encore d'étrangers malades. On a récépissé de 3 mois. Ça fait trois fois qu'on est renouvelé. Mais je n'ai rien de réponse encore. J'attends. Ouais. C'est ça mon histoire.
Alors, c'est un parcours assez classique. Les lois interdisent quasiment aujourd'hui de venir pour migrer en France. Donc, les gens qui souhaitent, pour une raison ou pour une autre, changer de pays, il faut qu'ils trouvent un moyen de rentrer en France. Un des moyens éventuels, c'est la demande d'asile. Alors, on peut dire des tas de choses là-dessus, mais c'est un fait. Il y a des gens qui font une demande d'asile. Alors, il faut savoir que 80% des demandes d'asile sont refusées. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y a 80% des gens qui se retrouvent en France dans l'état de sans-papiers. Alors, théoriquement, je dis bien théoriquement, quand on fait une demande d'asile, on est pris en charge par la préfecture, par l'État, qui a l'obligation, dans le cadre de la Convention de Genève sur le droit d'asile, de loger les demandeurs d'asile, de leur fournir une allocation temporaire d'attente et d'attendre la réponse de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Et si l'OFPRA répond négativement, on peut ensuite faire une deuxième demande, enfin un appel en quelque sorte, devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc c'est ce qui est arrivé à cette famille, et les deux ont été négatifs, c'est-à-dire qu'ils ont refusé le droit d'asile. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on devient sans papier et on se retrouve à la rue si on a été hébergé avant, puisque à partir du moment où vous n'êtes plus demandeur d'asile, eh bien, l'État vous répond que vous devez partir par vos propres moyens, regagner votre pays, et donc qu'il n'a pas de raison de vous héberger, quelle que soit la situation humaine. Et évidemment, c'est en général ceux qui révoltent les gens qui sont autour, les gens qui côtoient les sans-papiers. Et évidemment, à partir du moment où il y a une école, où il y a des enfants scolarisés, c'est plus facile, parce que ça veut dire que ces gens-là deviennent visibles. C'est d'ailleurs pour ça que RESF s'est créé autour des écoles. C'est parce que l'école est un milieu qui réagit forcément. Quand on est enseignant, je suis enseignante, c'est difficile de supporter d'avoir des élèves qui dorment la nuit dans la rue. Mais c'est difficile aussi de penser qu'on a des élèves qui vont disparaître du jour au lendemain parce qu'ils vont être expulsés. Donc tout ça explique que c'est un milieu qui existe et qui est réactif. C'est encore plus difficile, si je puis dire, quand on est un célibataire et que on est tout seul, parce que là c'est difficile de se créer un milieu dans un pays étranger, etc. Alors dans le cas de cette famille, madame l'a très bien dit, elle est née avant 1962, elle est donc née française, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'Algérie. Donc les Algériens étaient des Français. Bon. Ce qui veut dire que maintenant, elle peut redemander la réintégration dans la nationalité française. C'est quelque chose qui avait été prévu au moment des accords d'indépendance pour les gens qui étaient nés avant 68 et qui n'avaient pas, par eux-mêmes, refusé la nationalité française. Puisque madame, à cette époque-là, madame et monsieur, étaient mineurs, ce sont donc leurs parents qui sont devenus algériens et qui ont, en quelque sorte, transmis cette nationalité algérienne à leurs enfants, qui, eux, étaient nés français, puisqu'ils étaient nés de parents français sur le sol français. L'Algérie, mais le sol français. Et donc, madame peut redemander sa nationalité française, mais pour ça, il faut qu'elle cumule plus d'un an de présence en France en situation régulière.
Mais une situation irrégulière qui ne peut pas exister, en fait.
Ben voilà, c'est un peu ça, ça se mord la queue, sauf que là, comme elle aura peut-être un titre au titre de la santé, et si on atteint un an de titre régulier, on va pouvoir légalement redemander la nationalité française, qui n'est pas donnée automatiquement, mais dont on peut espérer que c'est une porte de sortie. Bon, parce qu'après, en dehors de la mobilisation et du fait qu'on oblige une préfecture à donner des papiers, il faut tirer, j'allais dire, toutes les ficelles légales. On ne va pas laisser échapper, si on a une petite porte qui s'ouvre, cette possibilité-là. Ça serait trop dommage.
On parlait, voilà, l'école qui est aussi un lieu qui rend visible les choses et qui crée une solidarité, par exemple par rapport à un célibataire qui pourrait se trouver isolé. Mais dans votre situation, à devoir déménager ou vivre dans la rue et arriver quand même à faire en sorte que son enfant aille à l'école, c'est aussi quelque chose de particulièrement impressionnant et courageux.
Vous disiez ça se mord la queue. Oui, on se rend compte souvent que dans la situation de ces gens-là, c'est un peu on les met dans des situations un peu paradoxales. C'est-à-dire, par exemple, quand on demande à quand on propose de régulariser une famille au bout de 5 ans de présence en France avec 3 ans de scolarisation des enfants, souvent la scolarisation elle a lieu dans des conditions très très difficiles. Donc en gros, ce qu'on leur dit, c'est il faut que vos enfants aillent à l'école, qu'ils fassent une bonne scolarité, qu'ils soient assidus. Bien que, peut-être vous n'avez pas de logement, peut-être vous dormez dans la rue,
débrouillez-vous.
Dans 3 ans, on verra si vous tenez le coup. Donc ça, quand on rencontre les gens, on s'en rend compte. Et cette situation, elle est vraiment, c'est vraiment une façon, je trouve assez honteuse de traiter le problème, quoi. C'est-à-dire, voyons si vous allez tenir 5 ans, si vos enfants vont être assidus pendant 3 ans à l'école. Tant pis si vous êtes à la rue, on verra après.
Alors l'école Jean Genot, l'école où la petite est scolarisée, a fait justement une occupation d'école pour obtenir quelque chose, et l'a obtenu. Bon, ça a bien marché, c'est bien. Et maintenant, il y a 2 autres écoles qui sont occupées. L'école Gilbert Dru à la Guillotière, à Lyon 7e, qui est depuis lundi, qui occupe les lieux, et depuis lundi passé. Et l'école Berthelot, toujours dans le 7e, en face du CHRD, du Centre de la Résistance, occupe aussi l'école. Et ces 2 écoles défendent 2 familles qui sont justement à la rue, complètement à la rue, sans aucune autre possibilité. Et on espère que ça sera une façon aussi de remettre ça au goût du jour. Ils vont faire une conférence de presse mardi prochain, le 17, à 18h30, devant l'école Gilbert Dru, 1 rue Saint-Michel, Lyon 7e. Et nous espérons que beaucoup de journalistes seront là, bien sûr.
Et dans ces cas-là, en fait, l'occupation pour obtenir quelque chose, ce quelque chose, on le demande à, en fait à qui ?
On le demande à tout le monde. Non, c'est très compliqué, effectivement. Vous posez vraiment une bonne question. C'est très compliqué parce qu'en réalité, le logement n'est pas un droit absolu en France. C'est un droit si on peut. C'est un droit qui est reconnu, mais qui n'est pas complètement opposable. Donc, de fait, on fait en général tout un tas de démarches auprès du juge pour qu'il dise que cette personne doit être logée. Donc, ça, c'est une première chose. C'est un référé liberté loi d'Allo, très compliqué. Bon, ça marche pas parce qu'ensuite le préfet a l'obligation de le préfet qui est représentant de l'État, donc garant de l'application de la loi, on va dire s'en fiche un peu. Et c'est pas le préfet en tant que personne, hein, c'est le préfet en tant que représentant de l'État. Et l'État ensuite ne met pas de peine si le référé n'est pas respecté. Donc on a des gens dont la justice a décidé qu'ils doivent être logés et qui ne le sont pas. D'accord. Alors ensuite, peuvent loger tout un tas d'organismes. Mais il faut bien savoir que la problématique du logement, elle est complexe, parce que là, il faut loger des gens quasiment à titre gracieux, puisque pour la plupart d'entre eux, on retombe sur le cas précédent, pas de travail, pas de revenus, donc pas d'accès au logement. Donc après, la situation de l'hébergement d'urgence dans une ville comme Lyon, elle est absolument catastrophique, et ceci depuis plusieurs années, avec une situation qui se dégrade au fil du temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce soir, il y a plusieurs centaines de personnes, sans doute pas loin d'un petit millier, qui va dormir dehors parce qu'il n'y a pas de structure d'hébergement suffisante. Tout simplement. Et l'État, donc le gouvernement et ses représentants en région, les préfets, n'appliquent pas des lois existantes, par exemple des lois de réquisition, qui pourraient faire que des bâtiments vides soient réquisitionnés. Bon, je vous prends un exemple, en centre-ville de Lyon, vous avez un magnifique bâtiment, très très beau, historique et tout ce que vous voulez, l'Hôtel Dieu, qui a quand même été capable d'héberger...
Qui a une certaine histoire en plus, oui.
Qui a une certaine histoire, des milliers de personnes, bon, malades certes, mais enfin, un lit pour un malade, ça peut être aussi un lit pour quelqu'un qui a besoin d'un hébergement, sauf que l'État ne veut pas réquisitionner là, ça. Vous prenez, je sais pas moi, l'ancienne école des Beaux-Arts sur les pentes de la Croix-Rousse, ça fait je ne sais pas combien d'années maintenant qu'elle est vide. Bon, c'est toujours la même chose. Je prends un autre exemple, un peu plus en périphérie. La caserne Rabi, une caserne de gendarmerie, le long du boulevard de Ceinture, et à l'angle avec la route de Genasse. Il y a encore une petite année, les gendarmes habitaient dedans. C'est-à-dire qu'il y avait au moins deux très beaux bâtiments, style HLM, mais très beaux bâtiments. Je la connais bien parce que j'ai eu l'occasion d'aller voir des gens à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est vide. Ou quasiment vide. Il y a quelques familles qui ont été relogées. Mais tout ça, ça veut dire que l'État n'a pas la volonté réelle, bien que ce soit un gouvernement qu'on dit de gauche, pour loger les gens qui en ont besoin. Et il n'y a pas que les sans-papiers qui en ont besoin. Il y a des tas d'autres gens qui ont besoin d'être logés pour des tas de raisons, y compris les demandeurs d'asile.
Également. On a beaucoup parlé de l'État et de sa non-volonté, mais dans les gens qui ont du pouvoir, il y a d'autres institutions que l'État. Je pense notamment aux collectivités locales. Donc est-ce que là aussi, vous vous tournez vers eux? Parce qu'on sait aussi que ce soit les communes Grand Lyon, enfin les communautés d'agglomération, ont aussi des moyens de loger les gens qu'ils n'utilisent pas forcément. Ils sont aussi un petit peu responsables des écoles, donc ils doivent aussi s'intéresser à ce qui s'y passe.
Alors, ils ont quelques quotas de logements, assez peu en réalité en tant que collectivité territoriale, hein, que ça soit les maires, que ça soit le département, que ça soit donc la commune, le département, le Grand Lyon, la communauté urbaine de Lyon ou le département, ils peuvent allouer quelques moyens. Mais pas tant que ça en réalité. Le problème de l'hébergement d'urgence, et c'est ça le problème, théoriquement, c'est de la responsabilité de l'État. Donc quand on s'adresse à quelqu'un d'autre, on l'a fait à de multiples occasions, chaque fois on nous renvoie sur l'État. L'État n'a qu'à faire son travail. Bon. Alors avec en plus, évidemment, une mauvaise foi patente, dans un certain nombre de fois, avec des communes, des départements, des regroupements de communes qui n'ont pas forcément envie d'avoir des sans-papiers sur leur commune. Faut être clair quand même. Hein. Bon, on n'a qu'à voir la réaction de Monsieur Buffet, pour ne pas le nommer, à Oulin, quand le préfet a décidé de réquisitionner un terrain, d'y mettre des pseudo-bungalows et de loger des demandeurs d'asile. Donc des gens qu'il a l'obligation de loger, que l'État a l'obligation de loger. Bon, ça a provoqué un tollé dans la commune. Enfin, le maire a dit que ça provoquait un tollé dans sa commune et que c'était absolument inacceptable. On a quand même eu à plusieurs reprises des réactions de ce genre. Et moi, je trouve, là je prends une position personnelle, que les élus sont assez peu courageux dans ce domaine-là et surfent sur une opinion publique dont ils présument qu'ils sont hostiles à justement aux étrangers, hein, pour aller vite. Et on voit bien par la solidarité concrète qui se fait dans les écoles, au point que des gens se disent on va occuper l'école, des parents d'élèves et des enseignants se disent on va occuper l'école, que c'est pas si vrai que ça. Mais ça, il faut que ça monte, j'allais dire, jusqu'au cerveau de nos élus, hein, et ça c'est pas complètement gagné.
On va faire une deuxième pause musicale et on se retrouve donc après.
Thank you.
Mais de retour pour l'émission Grain de Sable. Moi, j'avais une question sur l'évolution. Si vous avez vu une évolution des populations depuis 10 ans, ce que vous avez un petit peu évoqué au début, c'est-à-dire que auparavant, les gens qui contactaient RSF, c'était des gens qui étaient déjà depuis plusieurs années en France, déjà intégrés. Donc, est-ce que ça, voilà, est-ce qu'il y a des primo-arrivants, des gens qui sont en France de façon beaucoup plus récente? Et peut-être, est-ce que vous avez vu aussi des différences des nouvelles nationalités qu'il n'y avait pas avant? Enfin, voilà, sur toutes ces années, si vous avez vu une certaine évolution?
Oui, on a vu vraiment une évolution au niveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les familles qui étaient là depuis relativement longtemps ont fini par être régularisées. Bon, aujourd'hui, on va dire qu'il y a une espèce de régularisation au fil de l'eau qui s'est fait moyennant à peu près 30 000 régularisations par an, que ce soit Sarkozy au pouvoir ou que ce soit le gouvernement actuel au pouvoir. On est à peu près au même niveau. Donc ces familles-là sont devenus des gens normaux, ils étaient déjà des gens normaux, mais des gens invisibles, rentrés dans le circuit banal de monsieur et madame tout le monde. Par contre, aujourd'hui, on a en face de nous les déboutés de l'asile, c'est-à-dire des gens qui viennent de différents pays, plus ou moins en guerre, plus ou moins en difficulté. Je pense par exemple à tous les pays de l'ex-Yougoslavie, dans lesquels les problèmes ne sont pas toujours réglés et où la misère est extrêmement grande et où il y a encore des conflits ethniques plus ou moins larvés, enfin des situations qui ne sont pas totalement réglées. En particulier, par exemple, les Roms du Kosovo, qui sont très mal acceptés en tant que Roms et qui trouvent comme solution d'aller voir ailleurs. Hein. Bon. Et aussi, on est toujours dans la problématique des ex-pays de l'Union soviétique, avec une immigration qui vient des ex-républiques soviétiques, notamment Arménie, Azerbaïdjan, etc., dans lequel, là aussi, les situations ne sont pas totalement réglées, ne sont pas totalement claires. Et puis, bien sûr, depuis quelque temps, on a des gens qui arrivent de nouveau du Maghreb, suite aux révolutions qui ont eu lieu là-bas, et qui aussi, là, la situation n'est pas stabilisée, et des gens qui viennent de Syrie, bien sûr, pour lequel il y a quelques places d'asile qui sont données, mais pas tant que ça en réalité, sans compter qu'il est extrêmement difficile de quitter la Syrie aujourd'hui et de traverser la Méditerranée ou de prendre des routes terrestres pour arriver ici. Donc on a un vrai changement, et un vrai changement qui montre encore une fois la volonté de ne pas recevoir de migrants, hein, une volonté qui est ancienne, puisqu'en France on a décidé qu'il n'y aurait plus d'immigration au tournant des années 70, à partir de 75, où on a fermé l'immigration, et la seule immigration qu'on a acceptée, c'est l'immigration dite familiale. C'est-à-dire que si, par exemple, moi je suis française, je me marie avec un étranger, je vais pouvoir le faire rentrer sur le territoire français, quel que soit l'endroit où je l'ai rencontré. Donc c'est ça l'immigration familiale, hein. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les gens qui sont là qui vont venir leur famille, c'est les Français qui, au cours de leur vie, rencontrent des gens avec lesquels ils nouent des relations familiales. Et puis ensuite, si par exemple ils ont fondé une famille à l'étranger, en tant que Français, ils peuvent toujours faire venir leur femme et leur femme ou leur mari et leurs enfants. Donc là aussi, on a une migration familiale qui perdure, mais qui n'est pas celle à laquelle on pense. Hein, c'est très peu de regroupement familial qui est quasiment fini aujourd'hui, puisque les migrants, les grandes phases de migration, ils sont aujourd'hui vieux, si je peux me permettre l'expression. Donc aujourd'hui, c'est pas leurs enfants qui sont français, puisqu'ils sont nés et qu'ils ont grandi en France, qui font une migration familiale, sauf s'ils épousent quelqu'un, comme n'importe quel Français, venu d'un autre pays.
Mais ce que vous disiez, je trouve ça assez hallucinant, par exemple, concernant la Syrie, donc, qui est en guerre. Donc, il n'y a pas forcément le droit d'asile n'est pas automatique pour des gens qui viennent de Syrie actuellement, donc qui ont réussi à venir jusqu'en France et qui quittent un pays qui est effectivement en guerre, quoi.
Alors, la convention du droit d'asile est assez restrictive malgré tout, enfin peut être prise d'une façon assez restrictive, elle l'est prise en ce moment, elle dit qu'il faut être dans un pays dans lequel on craint personnellement d'être pourchassé ou victime de sévices. Donc c'est sur ce terme personnellement que souvent l'OFPRA dit, mais vous, personnellement, vous n'êtes pas menacé.
C'est pas forcément personnel.
Voilà, vous n'avez aucune raison, vous, d'être pourchassé. Donc vous pouvez pas demander le droit d'asile. Bon, alors la France, des pays européens ont ouvert les frontières, un petit peu l'Allemagne, la Suède bien sûr, qui est le premier pays dans lequel sont reçus des Syriens en ce moment. La France en est aujourd'hui, je pense, à un petit millier de réfugiés syriens, ce qui est rien du tout par rapport à la demande d'asile, qui est d'à peu près 13 000 personnes par an en France. 13 000 personnes, quand on y réfléchit, c'est rien du tout, hein.
Mais justement, pour redonner une proportion, les gens sur Lyon, est-ce que vous avez une idée des gens justement qui sont dans ce cas-là, de sans papier, de gens que avec lesquels vous pouvez être en contact via RESF? C'est quoi? C'est une dizaine de familles, une centaine de familles? Est-ce que vous avez une idée à peu près?
Ah non, le nombre de personnes sans papier, ça avoisine par an probablement 400 ou 500 nouvelles personnes qui arrivent sur l'agglomération lyonnaise et qui deviennent sans papier. C'est de cet ordre d'idée-là, en tout cas. Alors, dans ces personnes, dont la plupart sont déboutées de l'asile, vous avez un certain taux qui reste et un certain taux qui retourne dans son pays ou qui part ailleurs, dans un autre pays, en espérant que l'herbe sera plus verte ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ce qui fait qu'en tout, on doit avoir chaque année plusieurs centaines de personnes qu'on ne connaît pas toutes, parce que toutes ne sont pas des familles. Hein. Donc nous, on a une vision restreinte de ça, mais en réalité, on peut dire plusieurs centaines de personnes sans papier sur Lyon. Sans exagérer du tout. Hein.
Et on a évoqué donc les difficultés de ces personnes, donc déboutées de la demande d'asile, pas possibilité de travailler, souvent pas de logement. Et est-ce qu'ils rencontrent des difficultés aussi pour scolariser leurs enfants? Alors, on peut leur refuser l'inscription, enfin, ce genre de choses arrivent aussi.
Là-dessus, la loi française est très claire. La scolarisation d'un enfant est obligatoire, quel qu'il soit. Bon, qu'il soit handicapé physique, qu'il soit handicapé mental, qu'il soit étranger ou quoi que ce soit, on doit le scolariser. Alors, dans les faits, c'est plus compliqué. On va dire que dans le primaire, en général, ça se passe assez bien, sauf pour les Roms. Bon, qui sont encore un cas à part, parce que ils sont, c'est la dernière minorité ouvertement opprimée dans toute l'Europe, hein, dans lequel on fait toujours un cas à part, dans lequel on les stigmatise, on les repousse, on les interdit quasiment de logement. Quand ils mettent un campement quelque part, on l'évacue, comme on dit. En réalité, on les repousse un peu plus loin. Donc là, on a un cas particulier. Mais même ces familles-là, dans le primaire, la plupart du temps, on arrive à les scolariser. Le problème se pose ensuite plus rapidement en collège et enfin en lycée. Alors en collège, il reste encore quelques places. L'académie, c'est-à-dire l'État là aussi, crée des espèces de dispositifs d'accueil qui sont insuffisants, qui sont surchargés. Ce qui fait que par exemple, tout à l'heure, j'étais avec une famille, une maman et son fils de 13 ans, auquel on a dit qu'il était inscrit sur liste d'attente au rectorat et qu'on lui ferait savoir quand est-ce qu'il pourrait être scolarisé. Bon, c'est une situation que je viens de découvrir là, quasiment à l'instant, qu'on va essayer de résoudre, mais on a vu des listes d'attente qui duraient plusieurs mois, ce qui est illégal, mais néanmoins qui existe.
Parce qu'il y a l'obligation de scolariser jusqu'à 16 ans.
Jusqu'à 16 ans. Et je dirais même au-delà, puisque on estime qu'un enfant qui a commencé des études doit pouvoir les poursuivre. Donc en réalité, un enfant qui commence ses études, il arrive à passer jusqu'au lycée professionnel ou autre, sans difficulté. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans le nombre de places dans les dispositifs d'accueil et la difficulté à scolariser un enfant après 12 ans dans une classe sans dispositif d'accueil, parce que on n'a plus les moyens. Il faut savoir que dans l'éducation nationale, on a aujourd'hui des classes très chargées. Moi, je n'ai pas de classe en dessous de 35. Donc ça veut dire qu'un gamin noyé dans 35 élèves, bon, j'avais cette année une jeune fille tunisienne, allophone comme on dit, qui parle pas français, qui heureusement s'est très vite débrouillée et s'est débrouillée pour apprendre le français toute seule, mais sinon c'est sans aide, donc il faut faire à la fois le cours prévu pour tout le monde, plus une aide particulière et sans aucun moyen, donc c'est un peu la quadrature du cercle, quoi.
Donc on voit qu'on a du pain sur la planche et justement donc il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des besoins de l'association en matière de soutien, de bénévoles, comment on peut participer, s'investir dans les actions de RESF, sans forcément être lié d'ailleurs à l'école en tant que parent d'élève ou en tant qu'enseignant?
Moi, je crois qu'il y a toujours moyen. Le moyen le plus simple, c'est quand on connaît une famille, parce que c'est là que ça fonctionne en réalité, parce que on est vraiment dans le lien de proximité. Alors, ceci dit, pour connaître une famille, il n'y a pas besoin d'être dans une école. Hein, ça peut être autour d'un squat, ça peut être autour d'une famille qu'on voit dans la rue régulièrement. Et d'ailleurs, assez régulièrement, des gens viennent nous voir en nous disant « Il y a une famille qui dort sous mon porche, qu'est-ce que je fais ?» où il y a une famille que je vois errer, parce que dans certains hébergements d'urgence, on est à la rue de fête quand même toute la journée, c'est-à-dire de 8h du matin à 6h du soir, par exemple. Donc je vois des gens qui errent, qu'est-ce que je fais? Et ça peut être un bon moyen d'accroche. Et évidemment, on a besoin de bonne volonté. On a besoin de gens qui se sentent concernés par ce problème et qui aient envie de faire des choses. Et il faut se dire qu'il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas forcément tout connaître sur les sans-papiers, tout connaître sur le droit d'asile, etc. Je crois que les sans-papiers ont besoin aujourd'hui de la reconnaissance du grand public. Ils ont besoin de la chaleur humaine, ils ont besoin de sentir qu'ils sont pas tout seuls. Et j'allais dire, c'est nous les Français qui devons leur apporter ça. Parce que c'est nous qui devons porter la honte de ne pas être capable d'accueillir des gens qui ont besoin d'être accueillis. Et je crois que chacun d'entre nous peut faire ce pas-là. Un sourire dans la rue, c'est déjà quelque chose et c'est déjà un engagement. Il faut y penser.
J'imagine que vous avez des fois besoin, vous parlez des occupations, quand il faut accompagner, je sais pas, une famille, la préfecture ou au tribunal, de faire aussi nombre, vous parlez de l'importance de l'opinion publique.
Oui, absolument. Alors, je vous engage tous à écrire à notre adresse RESF Lyon pour vous abonner à notre liste de diffusion sur le Rhône. Et grâce à ça, vous saurez tout sur RESF. Vous saurez surtout le moment où on a besoin de vous, parce qu'on publie toutes les semaines un calendrier dans lequel sont annoncés tous les événements dans lesquels on a besoin de renfort.
Donc on mettra l'adresse ou le lien sur le blog de Radio Canu.
Oui, absolument. C'est très facile. Hein. On a un site internet extrêmement bien fait. Il suffit de taper RESF sur n'importe quel moteur de recherche et on tombe sur notre site. Et à gauche, sur la page d'accueil, vous avez tous les départements et dans tous les départements, il y a un RESF. Donc vous allez sur 69 si vous êtes sur le Rhône, ailleurs si vous êtes dans un autre département, et vous trouvez là le nom, l'adresse, l'adresse mail, les numéros de téléphone qui vous permettent de joindre RESF. Merci à tous de venir nous renforcer.
Eh bien, merci d'avoir été là et aussi merci à la famille Bensouina d'avoir témoigné. Merci, et on vous laisse avec le Canu Info.
Qui est-ce qui promet? Don't tell me, Joe!